Bonjour Raymond Richard au micro. Eh bien, nous nous retrouvons pour l'émission Mosaïque. Donc, dans ce studio, il y a Chantal Matelet et Alain Martin qui sont catholiques, Jean-Pierre Dubreuil, humaniste, Jean Botvinnik, juif, Catherine Bianchi, protestante réformée, Salah Hawissi et Mimoun Enbati, musulman, et puis Raymond Richard pour essayer d'animer cette émission. Et nous sommes heureux de dire, eh bien, c'est la 51e, donc bon avenir à cette émission qui permet peut-être de faire tomber les préjugés. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons. Alors, eh bien, aujourd'hui, nous avions prévu de reparler, de revisiter la question des femmes dans nos religions et dans la société, bien sûr, puisque finalement, nos différentes églises, si je peux me permettre, et religions ont développé des visions de la femme dans leur religion qui sont finalement en relation avec ce que la société trimballe. Donc là, eh bien voilà, l'idée c'est de faire tomber les préjugés pour mieux se connaître. Alors, Jean, vous évoquiez le coronavirus en disant, eh bien, finalement, cela amène des retours de préjugés.
Absolument. Ça n'a pas tout à fait de rapport avec le thème de notre émission aujourd'hui, mais c'est quand même parler de l'actualité, parce que le 14 février, tous les ans, est fêté dans le monde, surtout chrétien d'ailleurs, c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux, fête de la reconnaissance de l'autre et du partage du bonheur, n'est-ce pas ? Or, il semble que l'épidémie de coronavirus, partie de Wuhan au centre de la Chine, qui a déjà fait plus de 1000 morts et touché des milliers de personnes, réveille la peur, la défiance, des discours racistes et des actes de malveillance sur les personnes asiatiques, que ce soit au travail, à l'école ou comme touriste en Europe. La peur panique, l'ignorance resurgissent. J'espère qu'en France, cela va se calmer. Et l'Académie de médecine, aujourd'hui, vient de condamner la chose en disant que ce n'était pas nécessaire du tout d'avoir peur.
C'est très intéressant. Et moi, ce qui m'interroge quand même, c'est que là, pour 1400 morts, alors, bon, il y a une épidémie, mais quand même, tous les ans, il y a 1 million de personnes qui meurent du paludisme. Et là, je me dis, quand même, peut-être il faudrait aussi qu'on réfléchisse. Le paludisme, c'est lié à l'absence d'eau potable.
Le paludisme est dû à la transmission par un moustique.
Par un moustique et qui se développe dans l'eau.
Mais il y a une bonne nouvelle à propos du paludisme, c'est qu'un vaccin vient d'être trouvé par l'Institut Pasteur qui va commencer à vacciner des femmes enceintes, en particulier les enfants.
Eh bien, recevons cette bonne nouvelle, parce que c'est vrai que là, il y a beaucoup de clients pour ce vaccin.
Absolument, mais grâce aux médicaments et au fait d'avoir baissé les prix des médicaments dans les pays touchés, il y a maintenant beaucoup moins d'1 million de personnes qui en meurent, mais il y en a toujours
deux. Plusieurs centaines de milliers tous les ans.
Non, tout à fait.
Voilà, bien, nous sommes embarqués sur la question de la maladie, et le passage est très facile à faire de la maladie vers les femmes, parce que souvent, ce sont les femmes qui soignent.
Oui.
Dans les hôpitaux, même dans les familles. Bon, le soin des enfants, des malades, revient souvent aux mamans. Donc, les femmes dans l'Église, dans nos religions.
Écoutez, dans l'islam, les noms d'hommes dans le Coran qui sont explicitement cités, sont les noms des prophètes. La femme, il y a 24 femmes qui sont implicitement citées, et une qui est explicite, c'est Marie. Il y a un chapitre entier consacré à Marie, Maryam, en arabe. Vous avez aussi un autre chapitre qui s'appelle « Les femmes », où on redonne le droit aux femmes, parce qu'à l'époque, vous imaginez bien, dans la péninsule arabique, la femme n'avait aucun droit. C'était un objet que l'homme utilisait à son bon gré. Elle n'avait droit à aucun héritage, elle n'avait été même pas reconnue. Et le Coran était revenu remettre ça dans l'ordre. Ça vous donne l'importance de la femme en islam. Pour vous dire, à l'époque, le prophète avait nommé une femme imam. Elle s'appelait Umm Waraka, qui pouvait diriger les prières. Maintenant, les théologiens, qui sont en majorité des hommes, vont vous dire que c'est un cas particulier.
Ils ont oublié.
Voilà, qu'elle faisait l'imam que dans sa famille, qu'avec des femmes, etc. Malheureusement, c'est parce qu'il y a que beaucoup d'hommes théologiens et il n'y a pas encore de femmes. Il y en a quelques-unes qui émergent, mais elles ne sont pas assez nombreuses. Pour vous dire, la place de la femme dans l'islam est très, très, très importante. Et malheureusement, on se base souvent sur ce qu'on voit, ce qu'on entend actuellement, qui n'a absolument rien à voir avec la religion islamique directement. Voilà.
Oui, c'est ça. En fait, pour les femmes musulmanes, on voit leur tenue, leur
voilà,
vêtements.
Voilà, on se limite
alors
à prendre du voile.
Effectivement, c'est assez mince.
Tout à fait. Pour vous dire, le prophète a eu plusieurs épouses. Il n'a aucune de ses épouses qui est citée dans le Coran. Pour vous dire, la place de Marie chez les musulmans, moi j'ai ma grand-mère qui s'appelait Marie, Myriam en arabe. J'ai la fille de Salah qui s'appelle Myriam. J'ai ma nièce qui s'appelle Myriam. Pour vous dire l'importance de la femme.
Alors ça, c'est dans les textes. Et dans la vie courante, par exemple, est-ce que les femmes viennent prier à la mosquée ou les femmes restent chez elles et ce sont les hommes qui vont à la mosquée? Comment ça se passe?
Il n'y a pas d'obligation pour la femme d'aller à la mosquée. C'est conseillé, mais pas obligatoire. Mais en vivant dans un pays à majorité non musulmane, il est fortement conseillé aux musulmans d'y aller, d'y rentrer pour s'instruire et découvrir sa religion, de prendre des cours de théologie ou même de cours d'arabe. C'est fortement conseillé. Mais actuellement, si on se limite à la théologie, non, il n'est pas obligé d'aller se rendre. Même à la prière obligatoire hebdomadaire, elle n'est pas obligée de s'y rendre.
Elle peut la faire chez elle.
Elle peut la faire chez elle. Bon, on reforme tout dans leur contexte de l'époque. À l'époque, c'était la femme qui s'occupait du foyer, qui s'occupait de ses enfants.
Elle était à la maison.
La grande majorité de son temps, elle passait à la maison, s'occuper de sa famille. Et c'était l'homme qui allait à la mosquée et qui était censé transmettre ce qu'il a appris à son épouse et ses enfants.
Qui avait ce rôle d'éducation, donc.
Voilà. Maintenant, les choses ont évolué. On a des outils qui nous permettent de transmettre la connaissance tout en restant à la maison. Mais moi, je conseille aux femmes de s'y rendre et de prendre leur place dans les mosquées actuellement, dans les associations qui gèrent les lieux de culte. En majorité, ce sont des hommes, ce qui n'est pas normal pour moi, à mes yeux.
Mais c'est un fait, voilà. Catherine, chez les protestants réformés.
Alors, chez nous, la réforme a profondément modifié la condition des femmes au cours des 16e et 17e siècles. Dans la théologie protestante réformée, selon la doctrine du sacerdoce universel, rien n'interdit aux femmes de se faire entendre. Luther affirmant: nous sommes tous prêtres, autant de chrétiens que nous sommes, désacralisant le rôle du prêtre, le sacerdoce n'étant rien d'autre qu'un ministère, un service. Et Luther affirmera plus tard en 1521, l'ordre, la bienséance, l'honneur exige que les femmes se taisent lorsque les hommes parlent. Mais lorsqu'aucun homme ne parle, il devient nécessaire que les femmes prêchent. Alors, il est certain que le rôle de la femme à cette époque,
c'était au XVIIe siècle, c'était vrai pour tout le monde,
d'élever ses enfants et de leur inculquer la religion, d'être un peu mère au foyer et, je dirais vulgairement, ne pas la ramener trop. Mais la révocation de l'édit de Nantes en 1621 a provoqué des divisions dans les familles, puisque dans des couples, les hommes étaient contraints d'abjurer, oui, parfois. Alors certains l'ont fait pour éviter tout problème, d'autres l'ont fait, mais avec un stratagème avec leur épouse. Ils abjuraient, mais leur épouse restait protestante, discrète, et continuait,
d'éduquer
était placé en chef de famille, si
oui,
je puis dire, et avec charge de leur inculquer une nouvelle manière de prier, en apprenant par exemple par cœur le Notre Père, le symbole des apôtres, etc. Et d'autres, bien sûr, d'autres ont renoncé à renier leur foi. Ils sont partis s'exiler
en Allemagne,
en Suisse, oui. En Allemagne, en Afrique du Sud, etc. Et si vous voulez, la réforme a beaucoup fait. Et puis surtout, les guerres, puisque les hommes étaient tombés au front. Et donc, c'était les femmes qui devenaient le chef de famille et qui travaillaient pour nourrir la famille. Donc, les femmes vont progressivement accéder à une fonction pastorale. La première femme pasteur réformée en France a été consacrée en 1930. En Alsace-Lorraine, c'est Berthe Brecht. Et puis, après, la situation resta un peu bloquée après cette époque. Et en 1949, une autre femme comme pasteur est admise, Elisabeth Schmidt, à condition que la candidate s'engage à rester célibataire. Et en 1965, le synode national de l'Église réformée de France accepte le ministère féminin sans aucune condition ni restriction. Et par exemple, depuis 2017, la présidente de l'Église protestante unie de France est une femme, Emmanuelle Sebold.
Et toi-même, Catherine, tu as été aussi en responsabilité de pasteur. Alors, c'était quoi exactement ?
Alors, moi, je suis une laïque et j'ai assuré 2 ans de vacances pastorales. Et pour ce faire, j'ai suivi une formation à l'Institut protestant de théologie réformée Boulevard Arago pour officier, faire des cultes, des enterrements, des baptêmes, des mariages. Alors, je n'ai pas eu la chance de faire des baptêmes, des mariages. Par contre, les enterrements, je suis rodée. Donc, j'avais un mandat et je peux toujours continuer. Pour l'instant, à Dreux, non. On verra peut-être prochainement sur Mars Osseux. Mais je suis appelée également à assurer des cultes dans les paroisses voisines, comme Saint-Quentin-en-Yvelines, Rambouillet.
D'accord. Voilà. Merci de ce témoignage.
Également célébrer la Sainte-Seine, bien sûr. J'ajouterai, à ce jour, 30% des pasteurs sont des femmes.
Oui.
Pasteur réformé, j'entends.
Donc, il y en a beaucoup.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.
Alors, du côté des juifs, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas de femmes. Si, il y a des femmes.
Ah, si, il y a quelques femmes. Donc c'est une longue évolution qui démarre évidemment à la création de la femme, qui avait un désir de manger un fruit d'un arbre, et après l'avoir mangé et fait manger à son mari, elle a reçu en punition de ne plus désirer autre chose que son mari. Et sa punition, c'était que son mari allait la dominer. Eh bien, la vie de la femme a été gouvernée jusqu'à maintenant par cette pensée-là, que la femme désire son mari, que son mari a l'obligation de lui rendre du plaisir. Mais la partie biblique de l'histoire juive, c'est quand même l'histoire d'un patriarcat qu'on connaît jusqu'à maintenant, tant dans le judaïsme que dans les autres religions.
Il semble qu'il y ait quand même une évolution dans le monde juif aussi, du côté des femmes.
Oui, oui, bien sûr. Alors, il va y avoir une certaine évolution, mais il faut se rendre compte d'où on est parti. Oui. Et pour vous donner un aperçu très raccourci d'où on est parti, eh bien, les femmes répondaient aux 3K de Bismarck, à la fin du 19e siècle. K. Kinder,
oui,
Küchet et Kirche, c'est-à-dire les enfants, la cuisine et l'église.
Voilà. Bon, ben c'est, alors, ça a été le cas dans beaucoup d'endroits.
Ce qui fait que les femmes, du fait qu'elles devaient s'occuper des enfants, elles n'étaient pas astreintes à un certain nombre de commandements que les hommes avaient. Et en prenant prétexte de cette chose-là, eh bien, elles étaient interdites d'être juges, par exemple, parce que la femme était considérée comme un enfant et qu'elle ne pouvait donc pas non plus témoigner en justice. Et si elle ne pouvait pas témoigner, elle ne pouvait pas être juge non plus. Et dans la synagogue, eh bien, elle ne devait pas être montrée aux hommes. Et donc, il y a une séparation entre les hommes et les femmes. Dans les synagogues assez riches, il y a des balcons. Les femmes sont au balcon et les hommes sont en bas. Dans des synagogues moins riches, il y a une barrière, une séparation entre les rangs de femmes et les rangs d'hommes. Et donc voilà la qualité des relations.
Et quand vous êtes ensemble.
Oui, je parle du judaïsme traditionnel.
Oui.
Mais avec la Shoah, avec le questionnement sur la raison de la Shoah, qu'on n'a pas pu se trouver les uns que les autres, où on a donné des réponses, je ne sais pas quelle est la bonne réponse, les femmes ont commencé à, et avec le progrès de l'instruction, de l'éducation, surtout en Occident, les femmes ont été à l'école. Elles ont également été un petit peu plus loin dans leurs études religieuses et elles ont commencé à revendiquer la place, leur place à l'égal des hommes.
Voilà, donc on va vers une certaine égalité.
Avec la création de l'État d'Israël, en plus, la place des femmes au niveau de la religion devait également être établie quelque part. Et déjà, il y a eu, alors c'est pas religieux, il y a eu une première ministre qui a été femme.
Madame Mère, quand même,
Madame,
c'était quelque chose,
Madame
c'était
Meir, là. Absolument, oui. Qui a été. Et il y a des femmes qui sont pas forcément religieuses, qui sont juges à la Cour suprême. Mais ça, on est dans un État qui est laïque, un peu religieux et laïque. Mais il y a quand même eu des changements, en particulier aux USA. Il y a une. Alors, ça date d'il n'y a pas très longtemps, puisque c'est en 2016. Une femme religieuse, très orthodoxe, qui s'appelle Madame Rachel Frayne, est devenue la première femme chassidique des USA à être élue comme juge à un tribunal civil de New York. C'est-à-dire que sa communauté a accepté, si on peut dire, a laissé faire cette dame des études de droit et dans le cursus normal d'avocat, et puis ensuite de demander d'être juge. Et donc, voilà une femme qui est devenue, alors qu'elle était une incapable.
Aux yeux de...
Donc une évolution qui est en train de se faire. De la même manière, les femmes n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'elles aussi, puisque ce n'est pas la prêtrise, un rabbin n'est pas un prêtre, donc c'est probablement plus facile pour une femme de demander sa place que chez les catholiques, je pense. Hein. Il s'est créé des associations d'enseignants, donc d'hommes, qui ont accepté d'enseigner à des femmes. Et ça a commencé aux États-Unis, dans les années 70, une école de formation talmudique qui formait à la fois des rabbins hommes, mais qui ont commencé à former des rabbins femmes. Et nous avons actuellement en France trois rabbins femmes, mais qui ne sont pas dans le domaine de l'ultra-orthodoxie. Elles ne sont pas reconnues par les ultras, par exemple. Mais de la même manière, le sport était interdit aux femmes parce que la pudeur, n'est-ce pas? Eh bien, récemment, une mère orthodoxe qui est mère de 5 enfants et qui a 30 ans a remporté le semi-marathon et demi-marathon de Miami en courant avec sa jupe, avec des vêtements à manches longues un couvre-chef, et elle a gagné. Elle va représenter l'État d'Israël, puisqu'elle habite en Israël, elle va représenter aux Jeux Olympiques de Tokyo, à la condition que la course ne soit pas le Shabbat. Parce que ça a lieu le Shabbat, elle ne va pas courir, puisque effectivement elle est orthodoxe. Donc l'évolution parmi les femmes juives orthodoxes, c'est-à-dire l'environnement orthodoxe ordinaire, disons pas des ultra-orthodoxes, permet cette évolution actuelle.
Eh bien voilà, merci de ce témoignage.
Par contre, il y a un livre là qui s'appelle La Croix, ça vient de La Croix, les femmes et les religions, et j'ai lu quelque chose dit par une femme juive orthodoxe. C'est humiliant d'être nommée, de répondre de mes actes au motif que je suis une femme. Un déjeuner de Shabbat, mon mari me tend un verre de vin en me demandant de faire le kiddush. Je ne connais pas, c'est une prière de bénédiction. Un de nos invités a protesté, estimant que c'était péché qu'une femme accomplisse ce geste. J'ai dû sortir le code de la loi pour lui montrer que c'était parfaitement accepté par les plus observants. Il a répondu qu'il allait quand même demander à son rabbin, car il estimait ça choquant. Je trouve humiliant que des femmes un peu instruites dans les choses de la religion soient mises en cause, remises à leur place, par des personnes moins instruites, sommées de répondre de leurs actes au motif qu'elles sont femmes. Et malheureusement, c'est une expérience assez fréquente. Et je dirais que ce n'est pas seulement dans la religion juive, c'est chez nous les catholiques, quand on veut...
Absolument.
Il faut vraiment, même si c'est reconnu par l'Église, que la femme... Ah, mais pourquoi fait-elle ça? Est-ce qu'on en est sûr? Parce qu'on est une femme. Ça montre que l'évolution, elle est difficile quand même. Hein.
J'ai oublié la dernière nouveauté extraordinaire, oui, à mon avis, pour pallier aux 50% de divorces des couples juifs, comme dans les autres religions. Une jeune femme de 29 ans orthodoxe, qui est fille d'un rabbin appartenant au courant ultra-orthodoxe Lubavitch, a ouvert une boutique à Tel Aviv et à New York de kosher sexe.
De quoi?
Sex shop.
Non.
Kosher sexe. Pour pouvoir alimenter le désir des partenaires dans les couples, pour raviver la flamme dans le mariage. Dans le Talmud, la sexualité est discutée très ouvertement en tant que partie inhérente de la nature humaine et surtout comme la pierre angulaire d'une relation. Et il semble que les deux boutiques ne désemplissent pas puisqu'elles vont en ouvrir un peu partout. Mais c'est rigoureusement, c'est pas du tout obscène ce qu'elle fait. Mais elle s'est rendue compte que la tristesse finalement des relations sexuelles au bout d'un certain temps, ce qui fait que les gens divorcent, on voit ailleurs, etc. Et donc elle va utiliser les moyens modernes pour augmenter l'excitation sexuelle. Et ben ça, j'ai trouvé que c'était extraordinaire.
On n'a pas fait de catholique.
Juste remarquer, oui, effectivement que les femmes juives, hein, j'en ai connu quelques-unes comme ça, sont très à l'aise avec la sexualité, beaucoup plus que
les autres religions, que dans les autres religions.
Enfin, c'est mon impression. Hein.
Il n'y a pas le tabou du péché originel que les chrétiens
ont assimilé abusivement à la sexualité.
En halal.
Aussi, les produits de sexe, kosher sexe et halal sexe.
Bon.
Alors, pour ce qui est de la religion catholique, il faut voir que la place des femmes dans l'Église est de plus en plus importante. Sur le plan du sacrement, l'Église dit que le sacerdoce, ce n'est pas un droit, mais c'est un appel. Et pour justifier que les femmes ne sont pas appelées à ce sacerdoce, l'Église rappelle que c'est le Christ lui-même qui avance, on pourrait dire, deux raisons majeures à cela. D'une part, le respect de la tradition, alors qu'il aurait pu désigner sa mère, la plus digne de toutes, hein, Jésus-Christ a choisi ses apôtres uniquement parmi les hommes. Et depuis, donc, l'ordination sacerdotale, par laquelle est transmise la charge, est confiée par le Christ à ses apôtres, donc à des hommes, donc d'enseigner, de sanctifier et de gouverner les fidèles. Et ça a toujours été réservé aux hommes.
C'était alors, un premier aspect. Alors, on peut quand même dire que première à annoncer la résurrection,
c'est quand même une femme. Hein. Voilà. D'autre part, le prêtre est le représentant du Christ, donc ça doit être un homme. Et cet argument est de plus en plus mis en avant aujourd'hui. L'ordination des femmes, les papes successifs, aussi bien Paul VI que Benoît XVI, Jean-Paul II et aujourd'hui le pape François, n'ont pas répondu à cette demande. Quoi. Voilà, nous en sommes.
Mais Jésus était un juif. Et à l'époque où il a vécu, c'était encore le règne du paternalisme.
Tout à fait.
Mais je pense qu'au-delà du fait de pouvoir devenir prêtre, etc., qu'il ne faut pas qu'on se cristallise là-dessus. Par contre, les femmes n'ont pas beaucoup de place encore actuellement. Et là, je vais dire une. Sexe faible. C'est Monique Beaujard qui dit « Je me suis souvent trouvée seule parmi les évêques. De 2009 à 2015, j'ai été directrice du service national famille et société de la Conférence des évêques de France. » Première femme à occuper un tel poste. Je me suis donc souvent trouvée seule femme parmi les évêques, notamment lors de l'assemblée plénière à Lourdes. Je me souviens aussi d'un séjour au séminaire français de Rome en 2010 où Monseigneur Descubes avait dû batailler pour que je puisse y loger, car les femmes n'y étaient alors pas admises. Dans les deux cas, la présence féminine se réduisait à une immense statue de la Vierge vers laquelle tous se tournaient avec dévotion, et aux femmes chargées de préparer et de servir les repas. Pas d'interlocutrice, donc, pour les évêques ou les séminaristes qui ne semblaient pas se rendre compte de cette absence de réelle altérité. Je trouve que c'est quand même incroyable. Et il y a beaucoup d'endroits où il y a quelques femmes et ils ont du mal. Hein.
Je précise quand même que le 15 janvier, le pape François a nommé une femme au dicaster qui concerne la place des laïcs, de la famille et dans la vie, et que cette femme est quand même placée maintenant numéro 3 dans la hiérarchie au niveau du Vatican. Bon, donc deux femmes ont été nommées. Un début.
Une petite anecdote. Quand je parlais tout à l'heure des deux années de vacances pastorales que j'ai assurées, il y avait entre autres, bien sûr, la soirée Une unité des chrétiens, que j'ai préparée avec Jean-Marie Liu, le prêtre. Et il m'avait chargé la prédication. Et bien sûr, mon père était présent, et je voyais pendant le service qu'il était profondément ému. Et en rentrant le soir, il me dit « Mais Catherine, tu réalises un peu, le prêtre t'a laissé lire l'évangile de Jean, une femme, et faire la prédication dans une église catholique. » Eh bien, je trouve qu'Adreux, c'est très évolué par rapport à d'autres paroisses catholiques que je ne connais pas.
Je pense que toutes les
femmes... mais je trouve que c'est quand même dommage que ça dépende du prêtre. Hein? Mais oui. Quand on dit c'est ça l'évolution, non.
Oui, mais attends, c'est partout dans toutes les...
Ça veut dire partout dans toutes les confessions.
Et chez les réformés, protestants réformés, c'est pareil. Il y en a qui sont coincés à double tour. Et d'autres qui sont plus ouverts.
Je pense que les femmes aujourd'hui, quelle que soit la religion... elles obtiennent par le combat. Parce que je pense que si on devait leur donner aux religieux, aux responsables religieux, ils reviendraient en arrière. Parce que c'est malgré eux que les femmes obtiennent leurs droits. Alors que nous, dans la religion musulmane, on a un exemple qui était Khadija, la femme du prophète, qui, elle, a accepté la prophétie, et était femme d'affaires. C'est une femme d'affaires. Aujourd'hui, ah, la femme, il ne faut pas qu'elle travaille, il ne faut pas tout ce que vous avez
dit. Il ne faut pas cela. Mais...
alors qu'elle, avant d'épouser, le prophète travaillait pour elle.
Oui, c'était elle la patronne.
C'était elle la patronne. C'était une femme noble, c'était une femme riche. Elle avait du pouvoir à cette époque-là. Donc, et ça a été un exemple, puisqu'il est resté avec elle plus de 24 ans sans avoir d'autre épouse. C'était... Et juste... je voulais vous dire, peut-être il y a aussi la fille de Jacob, Dina, qui a été un petit peu aussi rebelle, une femme de caractère, qui a épousé...
mais ça, dans la Bible, on a plein de femmes.
Parce qu'elle n'acceptait pas...
Est-ce que je peux donner quelques statistiques de l'ONU Femmes
sur
2020?
Oui.
Eh bien, une jeune femme sur 5, entre 20 et 24 ans, s'est mariée quand elle était encore enfant. Dans 111 pays, le viol conjugal n'est pas explicitement criminalisé par la loi.
Il y a encore du chemin à faire, quoi, voilà.
Oui. Il y a du chemin à faire entre la théorie de nos belles religions et leur application locale dans les familles.
Ça, je crois que c'est aussi... Eh bien, voilà, de toute façon, il faut au moins... Si on fait déjà cheminer des idées dans les têtes des gens, peut-être que nous participerons à ce que la deuxième moitié de l'humanité puisse aussi avoir quelques droits reconnus. Voilà.
Juste un petit exemple pour finir. À l'époque prophétique, les femmes, les hommes priaient ensemble.
Oui.
Au début de l'islam.
Oui.
Si aujourd'hui, vous le dites aux responsables, vous dites, bah, pourquoi... vous ne faites pas la tradition prophétique, vous aurez...
Bien sûr.
Alors que c'est une tradition prophétique, le prophète, lui, l'a appliqué.
Oui, mais c'est sûr que quand on voit Jésus vis-à-vis des femmes, c'est pas aussi... voilà, c'est pas aussi méchant que ce que... Mais bon, allez, les églises ont pris le mauvais pli des sociétés, et puis voilà. Chers auditeurs, j'espère que vous avez pris de l'intérêt à entendre cette émission. Et je vous dis bonne semaine à tous, au revoir.
Égalité et respect dans le monde entier. Mieux communiquer et nous respecter.
Tous frères et sœurs, s'entraider, mais surtout s'aimer.